Pétanque, yacht et baignade. Chaque été, la famille royale suédoise se retrouve au bord de la Méditerranée, à Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez. Si la Villa Mirage ne paie pas de mine, le roi Carl XVI Gustave, ses enfants et ses petits-enfants y goûtent aux douceurs de la Méditerranée. Je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Cet été, je vous emmène avec mes invités sur les traces des familles royales européennes en vacances en France. Je reçois aujourd'hui Thomas Pernette, grand reporter à Point de Vue, pour nous parler de la villégiature de la famille royale suédoise. Bonjour Thomas.
Bonjour Magali.
Thomas, en France, on ne connaît pas très bien la famille royale suédoise. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter, avant de mettre cap au sud, nous parler de Carl Gustave, ou Charles Gustave, comme on dit en français?
Carl XVI Gustave, écoutez, c'est Gustave. Le roi de Suède aujourd'hui. Il est sur le trône depuis 50 ans. Il a fêté en septembre dernier son jubilé d'or. Il est marié à la reine Sylvia, qui est allemande de naissance. Ils ont trois enfants et la princesse héritière, la princesse Victoria, épousé son prince Daniel, qui était prof de gym à l'origine, elle a 44 ans. C'est une famille, somme toute, très importante dans le Gotha européen, les Bernadottes, qui sont d'origine française.
Et donc, chaque été, la famille royale se retrouve à Sainte-Maxime, dans la Villa Mirage, qui peut sembler, quand on regarde les photos, les quelques photos qui sont parues, d'un aspect assez modeste pour une famille royale.
Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, on me l'offrirait, je la prendrais quand même. Alors oui, c'est pas un château, c'est pas un palais, cette villa, mais c'est une belle villa de vacances qui a un grand avantage, c'est-à-dire qu'elle est au bord de l'eau. Il y a une plage privée, plutôt une jetée, parce que ce n'est pas non plus les Maldives. C'est une villa qui fait, selon les médias suédois, environ 7 pièces. Donc on imagine qu'il y a 4 chambres environ. Le vrai problème de cette grande maison de famille, c'est que finalement, tout le monde peut l'avoir. Ça veut dire que si vous êtes la reine de Suède et que vous voulez lire un polar sur votre terrasse, il n'y a même pas besoin d'essayer de prendre un yacht comme faisaient les paparazzi ou un petit bateau pour essayer de prendre des photos. Limite de la plage d'à côté, vous voyez la reine de Suède. Donc, ce n'est pas forcément très agréable, très appréciable pour des gens, vous imaginez bien, qui sont suivis constamment par la presse, même en vacances.
Alors, depuis quand cette villa est-elle dans la famille royale de Suède?
Alors, cette villa, elle a une histoire qui est passionnante et qui est même très touchante, puisqu'elle est finalement rentrée dans cette famille royale dès l'après-guerre, en 1946. Elle a été achetée par l'oncle du roi qui s'appelait le prince Bertil. Et alors, il faut faire un peu d'histoire, pardonnez-moi, mais ce Carl XVI Gustave de Suède, en fait, il a perdu son papa très tôt. C'était le prince héritier. Son oncle Bertil était le deuxième dans l'ordre de succession au trône. Et finalement, il n'a pas pu épouser la femme qu'il aimait, une galloise, mannequin, divorcée, Lillian Davis. Et il a dû rester finalement un célibataire officiellement, parce que s'il se mariait, il perdait ses droits à la couronne. Et ça aurait pu être dangereux. Vous imaginez, il n'y avait que ce petit prince et lui après. Il fallait qu'on puisse quand même être certain que l'avenir soit garanti, soit sûr. Donc, il est resté finalement dans cette histoire d'amour caché avec cette femme qu'il aimait. Et cette villa qu'ils ont achetée tous les deux, c'était un peu finalement leur jardin secret. C'est là où ils pouvaient se retrouver. Il a fallu attendre de nombreuses années. Ce prince Bertil a épousé celle qui est devenue la princesse Liliane seulement en 1976, donc bien des décennies plus tard. Et la maison est restée dans la famille. Il est mort en 97. Elle en avait l'usufruit jusqu'à sa mort à elle en 2013. Mais dès la fin des années 90, dès le début des années 2000, finalement, c'est Carl XVI Gustave, Sylvia, les enfants qui y vont. Et ils ont pris comme ça l'habitude d'aller dans le sud de la France. Et visiblement, ils y sont très bien puisqu'ils y vont toujours.
Alors, vous dites que la famille royale est très attachée. À Sainte-Maxime, le prince Bertil l'était aussi. Et il était notamment connu pour son amour de la pétanque.
Oui, c'était un grand sportif. La pétanque, le tennis. Il y a aussi des photos qui sont très touchantes. On le voit avec son épouse. Alors, ça y est, ils ont un certain âge. Hein. Ils sont quand même mariés. 70 et 60 ans, passés. On les voit sur une petite... Pardonnez-moi l'expression, pétrolette, une petite mobilette tous les deux. On sent bien que même si la famille royale de Suède n'est pas comme les Windsor, une famille corsetée dans le protocole, que là-bas, ils pouvaient avoir une vie vraiment tranquille et qu'ils adoraient faire partie de la vie locale. On les imagine très bien au marché ou tous les deux bras dessous, profitant du temps estival. Sachant que la famille royale de Suède a une villa de vacances en Suède, sur l'île de Åland, qui est au sud-ouest de la mer Baltique. Entre nous, Magali, il fait pas plus de 20 degrés l'été. Donc on imagine bien les Suédois heureux de venir dans le sud de la France, dans le Var, pour profiter des 30 degrés de rigueur minimum.
Et la commune de Sainte-Maxime a d'ailleurs rendu un hommage à Bertil. Sous quelle forme?
Alors ça, c'est finalement quelque chose qu'on a vu. Je crois qu'ils ont baptisé un boulodrome en son nom. Je vous avoue qu'avant d'enregistrer ce podcast, je l'ignorais. Mais ça donne envie là aussi d'y aller peut-être et de faire une petite partie. Je ne sais pas ce que vous faites cet été, mais on pourrait toujours aller taquiner le cochonnet pour aller voir ce boulodrome Prince Bertil.
Alors est-ce que les membres de la famille royale d'aujourd'hui sont aussi accessibles quand ils viennent en vacances à Sainte-Maxime que le Prince Bertil qui allait... taquiner le cochonnet avec les habitants.
Je crois qu'ils ont moins lié avec les habitants. On les voit aujourd'hui, malgré tout, apprécier cette villa, mais il y a eu de nombreuses rumeurs dans la presse suédoise, une volonté peut-être à un moment de vendre la maison, du fait de cette visibilité, du fait que tout le monde peut les voir. Donc en 2009, en 2013, la presse à scandale suédoise a parlé peut-être de vendre cette maison. Ils y sont restés, mais c'est vrai que la jeune génération, c'est-à-dire les enfants du roi et de la reine, aiment toujours y venir. Je crois qu'ils aiment beaucoup la mer. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais le deuxième enfant du roi et de la reine, le prince Carl Philippe, est... très bien fait de sa personne, donc quand il fait du ski nautique pendant quelques années, notamment quand il était encore célibataire, ça plaisait beaucoup dans le coin et au-delà, donc on les a beaucoup vus à la mer, faire du sport, etc. Oui, je pense que malgré tout, ils sont attachés, d'autant plus que la famille est d'origine française, on l'a dit, les Bernadotte. Alors même s'ils ne sont pas francophones, pas francophiles, je pense que ça leur plaît quand même de garder ces attaches.
Alors, il y a d'autres familles royales qui viennent en villégiature dans la région. Il y a la famille royale belge, la famille grand-ducale luxembourgeoise. Est-ce qu'il leur arrive de se retrouver entre têtes couronnées?
Eh bien, écoutez, je vais vous décevoir, mais non, pas vraiment. C'est-à-dire que même si on est dans le sud de la France et pas si loin les uns les autres, les familles royales qui... en effet, cousines plus ou moins, se retrouvent pour les grands événements, que ce soit les mariages ou même les grands événements comme le débarquement qu'on a connu cette année. Quand ils sont en vacances, ils sont surtout là, comme nous tous, pour recharger les batteries. Et on ne va pas faire la révérence à la grande-duchesse de Luxembourg ou à la reine de Danemark en montant dans le Lot. On est certes cousins lointains, mais on reste chacun chez soi et surtout on profite et on essaye surtout de ne pas se faire trop remarquer. Même si je dois avouer que les médias... français mais même étrangers, respectent ces royaux en vacances. Et vous allez en parler dans ce podcast, il y a plein de familles qui aiment visiter, profiter, aller au restaurant, faire le marché. Néanmoins, on les laisse quand même assez tranquilles.
Alors Thomas, vous parliez de révérence, de protocole. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du manuel de survie royale et de bonne manière, dans lequel vous décrivez notamment une croisière à bord du yacht de la famille royale danoise. Alors bon, là, c'est la famille de Suède, mais on a l'impression surtout que... d'après les photos de paparazzi, ils sont surtout très très loin de tout ce qui est protocolaire et ils sont plutôt en train de faire la crêpe au soleil sur des yachts.
Oui, alors je serais pas aussi catégorique que vous, Magali, parce que déjà, il n'y a plus que deux familles royales qui ont des yachts aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, les Danois, sur le Danbrook, c'est le nom du yacht royal, et les Norvégiens qui ont le Norg. C'est également le nom de leur navire. Ces navires, je suis désolé, je vais peut-être tout d'un coup décevoir vos auditeurs, finalement ce sont des navires militaires et ils servent avant tout à des déplacements à l'étranger, comme on prendrait aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'avion présidentiel pour le président de la République. Donc ce n'est pas un navire qu'on peut tout d'un coup, sortir du port de Copenhague ou de Oslo et partir en vacances. Ce n'est pas si simple que ça, ce sont des navires dont les dépenses sont vraiment scrutées. Aujourd'hui, vous savez que les familles royales ne font pas ce qu'elles veulent. Et même quand on est danois, et même quand on est fait, on peut peut-être prendre le soleil en allant en Islande ou en Norvège en visite d'État. On ne va pas en Méditerranée 15 jours ou 3 semaines. Ou alors, c'est arrivé peut-être à des moments, tout d'un coup, le capitaine arrête le bateau et on se jette en Méditerranée pour faire un petit plouf. Mais très honnêtement, ce sont surtout aujourd'hui des bâtiments qui sont là pour des raisons gouvernementales et institutionnelles. Donc pas de yacht immense comme on imagine, notamment dans les pays du Golfe. On reste quand même sérieux, surtout dans les pays scandinaves, où la transparence est vraiment une obligation et très respectée.
Merci Thomas.
Merci à vous.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de notre série d'été sur les familles royales en vacances en France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note ou à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site bfmtv.com. À bientôt.